Triple écran, l'émission cinéma et série fait sa rentrée radiophonique, encore que la dernière, en fait, c'était le premier mardi d'août. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir notamment Thomas Swinoe. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Max.
Tu viens nous parler d'une série culte qui a 20 ans maintenant. Elle s'appelle Lost.
Tout à fait.
Et tu vas en parler puisque tu sors bientôt, très bientôt, un ouvrage sur Lost. Comment s'appelle-t-il ?
Tout savoir sur Lost, tout simplement.
Eh bien, on va tout savoir sur Lost dans quelques minutes avec toi, Thomas. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'au studio de Radio 666 à Hérouville-Saint-Clair. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Agathe qui intervient en tant que chroniqueuse, vu le nombre de fois maintenant que tu viens dans Triple Écran. Ça fait plaisir de t'avoir parmi les régulières de 666.
Merci.
Pour Triple Écran. La rentrée s'est bien passée pour toi ?
Impeccable.
Est-ce que c'était une belle rentrée cinéma, selon toi ?
Oh oui, 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 c'est une belle rentrée. On a des belles actus au mois de septembre. Donc,
tu vas nous détailler ça dans quelques instants, vers 21h. Avant, on aura parlé en détail donc, de la série Lost. Je ferai bien intervenir au moins un fan aussi par téléphone. Un fan de Lost, ça doit bien se trouver, n'est-ce pas, Thomas ?
Oh oui,
je suis sûr que toi, t'en connais tout plein. Tu as pu confronter un peu ton point de vue sur Lost avec d'autres fans.
Complètement.
Et toi, t'es tombé dans Lost dès le début ?
Non, à partir de la première heure. De la troisième saison.
Ah, donc pas un fan de la première heure.
Non.
T'as dû rattraper ?
En fait, j'ai vu les trois premières saisons quasiment à la suite. Donc j'ai pas eu cette frustration d'attendre entre chaque saison. Et puis après, j'étais comme tout le monde, à attendre, à regarder en streaming un peu illégal. Et puis à aller sur les forums pour débattre avec les autres fans.
Mais maintenant, tu es revenu dans la légalité, bien sûr. Tu t'es rendu compte que c'était beaucoup mieux.
Tout à fait.
On va parler donc de Lost. Il y aura donc un petit résumé de ce qui nous attend ce mois-ci au cinéma. Plusieurs interventions téléphoniques dans cette émission Triple Écran. Et on va d'ailleurs commencer par une première intervention téléphonique dans 3 minutes avec une personne du festival Off-Court de Trouville. Ça arrive très vite, ce festival de courts-métrages. Et je me tourne vers Thomas et Agathe. Est-ce que vous regardez de temps en temps des courts-métrages ?
Moi, ça m'arrive sur Canal, ouais, de regarder des courts. Je trouve ça distrayant, les formats courts, les histoires concentrées comme ça. Puis je trouve que c'est toujours un challenge de raconter une histoire en si peu de temps.
Donc, ouais. Thomas ?
Assez rarement, en fait, c'est surtout les bonus des DVD et des Blu-ray qui proposent des courts-métrages des réalisateurs.
Oui.
C'est comme ça que j'en vois, en fait. Mais j'ai vu que maintenant, sur genre Netflix, il y en a de plus en plus et il faudrait que je m'y mette un petit peu.
Ouais. Il peut arriver que des longs-métrages aient d'abord eu pour vie, enfin, le scénario a d'abord été sous la forme d'un court-métrage avant d'être un long. Et c'est dans ce cadre-là, parfois, qu'il y a ce genre de bonus.
Ouais.
Ou simplement parce que c'est le même réalisateur.
Les deux, en fait. Genre le film Saw, à la base, c'est un court-métrage.
Ah oui ?
Ouais, alors j'ai pas forcément les titres d'autres en tête, mais ouais, c'est des bonus qu'on retrouve assez facilement pour ceux qui achètent encore du format physique.
Ce soir, dans Triple Écran, on aura parlé de plusieurs formats, court-métrage, long-métrage et série. Et en l'occurrence, ce soir, il y a une série à l'honneur, Lost. Ça me tenait à cœur déjà depuis longtemps de faire un focus sur Lost. Avec l'ami Phil, je suis déjà intervenu dans Geek or Die pour dire à quel point je suis fan de Buffy. Il y a quelques temps, on a parlé dans Triple Écran d'une série qui s'appelle X-Files et on en avait longuement parlé. Je me suis dit qu'il était temps de parler de Lost et d'autant plus temps qu'il y a les 20 ans de la première diffusion aux États-Unis. Thomas a sûrement la date précise.
22 septembre 2004.
Bravo. 22 septembre 2004.
Oui.
Ok, eh ben, je ne l'avais pas, heureusement que tu l'avais, la date. Donc nous, on y a eu droit un peu plus tard en France, mais je me souviens bien puisque j'étais là devant le poste, ça a bien occupé mon été entre le lycée et la première année de fac. C'est fin juin, au début de l'été, qu'on a eu droit à la première saison de Lost sur TF1. On avait même du prime time.
Samedi soir, c'est
le samedi soir, oui.
c'était inédit pour l'époque. Les deux premières saisons, en tout cas, c'était le samedi soir à 20h50. C'était à la base du divertissement.
Ouais, c'était un beau pari et ça avait le mérite, à défaut de voyager cet été-là, de se retrouver sur une île. Mais bon, évidemment, dans des conditions qu'on ne souhaite à personne, puisque Lost, sous-titré en français, Les Disparus, c'est une affaire de naufragé. Un crash d'avion, une île où il n'y a pas grand monde, de toute évidence, à part donc maintenant ces survivants au début. Et attention, on ne va pas trop spoiler, parce que autant j'ai regardé la première saison quand elle est passée en direct, je dois l'avouer, j'ai décroché en cours de saison 2, au point de jamais trop trouver l'occasion ou l'envie claire et nette de m'y remettre. L'envie était revenue il y a quelques temps quand même, parce que j'avais compris que j'étais passé à côté de quelque chose. Je déguste pour ma part, et je sais que tu m'envies, Thomas. Là, actuellement, je déguste, j'en suis à la fin, j'entame la fin de la saison 3. Donc on fera attention à ne pas surtout pas me spoiler. Est-ce que déjà tu comprends que j'ai pu décrocher en cours de saison 2 ?
Ouais, complètement. Après, pour moi, le décrochage, il est plus cohérent en début, milieu de saison 3. C'est là où les showrunners stagnaient eux-mêmes. Ils ne savaient pas trop où ils allaient. Enfin, ils savaient où ils devaient aller, mais ils ne savaient pas en combien de saisons ils pourraient le faire. Et donc, ils ont recréé des nouveaux flashbacks pour les personnages. Ils ont recréé plein de choses. C'est un peu chiant, il y a du surplace. Et pile là où t'en es, ils ont négocié à ce moment-là, à la fin, en saison 6. Ils savent où ils doivent aller et tu vas voir, pour toi, là, c'est un gros kiff qui t'attend.
Mais je sens effectivement, là, je n'ai plus que 6 ou 7 épisodes à regarder de la saison 3. Je sens que ça a repris du poil de la bête, que ça devient bien haletant. Et effectivement, en redonnant une chance à la série, j'ai failli redécrocher un peu. Enfin, redécrocher, non, parce que là, je me suis dit, je ne vais quand même pas décrocher une deuxième fois. Mais j'ai senti cette fameuse, on va dire, ce petit accalmie ou essoufflement lors de la saison 3. Mais tu me promets que maintenant, c'est parti pour de bon, là ?
Ouais.
Je ne vais pas décrocher.
Non.
OK. Agathe, avant que j'interroge un peu plus Thomas sur sa passion, sur Lost qui l'a conduit à rédiger un livre qui arrive très vite, est-ce que toi, Lost, ça te parle ?
Alors oui, Lost, ça me parle, parce que j'ai regardé, moi, les trois premières saisons, mais je l'ai découvert un peu sur le tard. Disons que, comme j'expliquais tout à l'heure, Breaking Bad était déjà sorti et toutes les trames narratives qui avaient pu être initiées dans Lost avaient déjà été refaites ou réexploitées. Donc j'ai pas eu cet effet de surprise que les fans de Lost ont pu avoir à la première diffusion.
Thomas, tu me disais, tu as découvert Lost lors de la saison 3.
Mm-hmm.
Et tu t'es dit quoi ? J'arrête et je reprends depuis le début ?
Non, en fait, je me promenais dans une grande enseigne culturelle qui faisait des coffrets DVD, genre un acheté, un deuxième offert. Je me disais, tiens, je vais enfin me mettre à Lost, parce que c'était compliqué d'être tous les samedis soirs devant sa télé, les coupures pub, etc., la VF au lieu de la VO, etc. Même si la VF de Lost est très bonne, hein, je tiens à le préciser. Et je rentre chez moi, je mets le premier DVD, le premier épisode, le deuxième, le troisième, et je crois que deux, trois jours après, je suis allé acheter le troisième coffret, donc la saison 3 qui venait de sortir, tellement j'étais embarqué dans le truc directement. J'avais 20 ans à l'époque.
Alors, je te soupçonne de ne pas avoir eu beaucoup de suspense entre la fin de la saison 1 et la fin de la saison 2.
Non.
Alors que moi, j'ai dû attendre. J'ai attendu beaucoup. Toujours pas de spoil. Donc, tu te souviens du premier épisode que tu as regardé ? Tu t'en souviens bien ?
Bah, c'est l'épisode pilote hein, qui est quand même assez mémorable.
Y a bien un pilote dans l'avion de Lost. Qu'est-ce qui t'a intéressé au départ ?
C'est vraiment un mix de tout, c'est-à-dire aussi bien les personnages qui sont très vite attachants, même s'ils sont un peu caricaturaux, etc. Mais ils vont vite être un peu plus soignés, un peu plus nuancés. Évidemment, cette fameuse île, il y a quelques mystères qui sont mis dès le début. Donc, comment ils vont survivre ? Qu'est-ce que c'est que cette île ? Et waouh, c'est quoi le passé de ces personnages, leur futur. Il y a le petit mix de tout ça. Et après, il y a tout l'habillage, un peu de la forme de la série. Enfin, la musique de Michael Giacchino, on en reparlera peut-être après, mais qui est formidable. Il y a un soin qui est quand même assez apporté, qui était assez inédit pour l'époque. L'épisode pilote a coûté, a priori, 14 millions de dollars. C'est pareil, c'était du jamais vu. Donc, on a senti tout de suite qu'il y avait un côté vraiment au-dessus du lot. Et puis, il y a surtout une écriture de type feuilleton, qui était assez rare pour l'époque. Il y avait 24 heures chrono un an avant, qui avait déjà un petit peu révolutionné le médium de série télé, qui était initié quelques années avant par Twin Peaks, on va dire ça comme ça. Et puis, Lost a complètement métamorphosé ça avec cette écriture à la fois sur les personnages, cette forme de... On fait des flashbacks, on fait du présent, on fait d'autres choses que tu n'as pas encore vues parce qu'il ne faut pas que je te spoil. Mais voilà, il y a aussi bien la forme que le fond qui était soigné, qui était singulier, qui était novateur. Et puis, un casting qui est quand même parfait, entre guillemets. Ce qui est assez cohérent puisqu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont été... leur rôle a été écrit par rapport à leur vrai caractère dans la vie, leur vraie façon d'être, etc. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est tellement eux-mêmes, c'est tellement naturel d'être comme ça, mais c'est un petit peu normal aussi.
Je vais peut-être te demander de choisir parmi tout plein de chouchous, mais as-tu quand même un acteur ou une actrice préférée dans Lost ?
En acteur, il y a Terry O'Quinn, celui qui joue John Locke, pour des raisons évidentes quand tu auras vu à la fin de la série. On va pas trop spoiler. Après, j'ai quand même trois chouchous. Il y a Benjamin Linus aussi. Et puis Desmond. Donc
là, tu parles des personnages.
Des personnages, pardon.
Acteur préféré, Terry O'Quinn.
Ouais.
Et côté personnage, donc à la fois Locke.
Linus et Desmond. Ouais, c'est les trois. C'est souvent les trois qui reviennent de toute façon quand on parle de la série.
Mais moi, je suis Jack, quoi. Je ne suis pas Jack. Je n'aurais pas cette prétention, mais moi, j'aurais tendance à être fan de ce qui s'apparente à un héros, à savoir Jack. Ouais. Et on n'est pas si nombreux que ça, si, quand même.
Si, en fait, c'est surtout que Jack a un côté peut-être un peu agaçant au début. Donc plutôt saison 1, voire saison 2, à vouloir un peu être le leader, même si c'est malgré lui. Et c'est vraiment dans ce que tu n'as pas encore vu, où il va évoluer d'une façon hyper intéressante. Je n'en dis pas plus pour ne pas trop spoiler, mais les fans qui ont vu la série, ils voient très bien de quoi je parle.
Agathe, ton personnage préféré dans Lost ?
Moi, je n'ai plus les noms, mais celui qui me revient le plus, c'est le personnage principal, en tout cas, qui enclenche l'épisode pilote.
C'est Jack.
Jack, c'est ça. C'est celui qui a le plus de charisme, en tout cas, dans les saisons que moi, j'ai regardées.
Il y a Sawyer, quand même, qui est le bad boy.
Ouais, non. Désolé.
Mais, non, sois pas désolé, moi, je préfère Jack.
Jack.
La personne membre de l'équipe de Lost dont tu as le plus suivi la carrière, Thomas ?
Alors, c'est pas tant le casting, parce que d'ailleurs, ils n'ont pas forcément brillé après. C'est plutôt l'un des co-créateurs de la série, coproducteur, scénariste, donc showrunner maintenant, c'est Damon Lindelof, qui avait fait un petit peu d'autres choses avant Lost. Lost, c'est vraiment son bébé. Alors, avec un peu J.J. Abrams, mais surtout Carlton Cuse. Ça, c'est une erreur qui revient souvent. On associe vraiment la paternité de Lost à J.J. Abrams et à Damon Lindelof. Alors, c'est vrai, mais faut le nuancer. Et Lindelof, derrière, c'est celui qui a créé The Leftovers, une série en trois saisons qui est magnifique également, la mini-série Watchmen, et puis qui a participé à l'écriture de certains longs métrages qui ont été très clivants, comme Prometheus, préquel d'Alien.
As-tu déjà rencontré ou aperçu des membres de l'équipe Lost ?
Alors, j'ai pu faire une photo l'an dernier avec Marc Pellegrino, qui joue donc le personnage de Jacob. Tu n'as pas encore rencontré, mais tu en as déjà entendu parler.
Oui, c'est un personnage important, apparemment.
Voilà. C'était une rencontre assez rapide, mais c'était très sympa.
Et combien de fois as-tu visionné Lost, Thomas ?
6 ou 7, j'ai arrêté de compter.
C'est quand même 121 épisodes, répartis en 6 saisons de 2004 à 2010. On continue à parler de Lost avec toi, Thomas, dans quelques instants. On va aussi faire intervenir un fan par téléphone. Mais d'abord, une pause musicale. Alors, celle-ci, tu t'en doutes, c'est pas vraiment une devinette, mais tu vas quand même devoir être réactif, Thomas. Dès les premières notes, tu dois être en capacité de m'annoncer plus qu'un titre ou... une artiste ou un artiste, tu dois aussi me faire le lien avec Lost. À toi de jouer.
Ah.
T'as l'introduction, pour ça.
Oui, c'est l'introduction de la saison 2 de Lost.
Et c'est
quand on découvre le personnage de Desmond.
Cass Elliot qui chante Make Your Own Kind of Music.
Ouais, tu le dis mieux que moi, donc c'est très bien.
À tout de suite. C'était sur 666, Cass Elliot, le titre Make Your Own Kind of Music. Est-ce que ça rappelle des souvenirs à Jérôme qui nous a rejoint par téléphone ? Bonsoir Jérôme.
Bonsoir. Si je ne me trompe pas, c'est le morceau qui est comme Desmond dans le bunker. C'est bien ça ?
Eh bien, on va voir si Thomas nous confirme ou pas ta réponse.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est bien ça.
Ouais, c'est bien ça. Super accueil.
Lost, pour toi, c'est une série qui compte. C'est peut-être la série qui compte le plus ?
Oui, c'est la série qui compte le plus.
Pourquoi, à ton avis, elle compte autant pour toi ?
Je sais pas, peut-être les personnages, le développement. Je ne suis pas un gros fan de télé, mais le jour où je suis tombé dessus, j'ai accroché direct. Et c'est peut-être le fait, moi, qu'il soit, les personnages sont très développés, qu'on puisse identifier facilement un des survivants ou autre.
Et toi, à qui t'identifiais-tu le plus ?
Je sais pas, je serais peut-être plus proche d'un Charlie ou Hugo, peut-être.
Ok. Charlie pour le côté musicien, puisque je précise que t'es musicien.
Ouais, c'est ça, Charlie pour le côté musicien, et puis les problèmes qu'il a au début de la série, les dépendances, c'est pas un personnage principal, c'est pas lui qui va être directement au cœur de l'action, mais il est toujours là pour filer un coup de main, c'est une bonne personne au fond, même avec tous les problèmes qu'il a pu avoir et tout ça.
T'es resté à fond dans la série du début jusqu'à la fin ? Sans révéler ce qui se passe dans l'intrigue, mais globalement, t'as eu toujours autant d'entrain jusqu'au bout ?
Alors, j'ai démarré la série sur le tard. J'ai découvert en coffret DVD récupéré au boulot la saison 4. Ce n'était pas en plus la saison plus de facilité. Et d'habitude, je regardais justement des trucs le soir pour m'endormir, mais là, j'ai pas réussi en fait. J'ai commencé par la saison 4 et je crois que j'ai dû bouffer le premier DVD le soir où j'ai eu quelques jours après avoir eu le coffret, quand je l'ai mis dans l'ordi. Il a fallu.
C'est un parcours intéressant de démarrer par la saison 4. Ça fait réagir Thomas.
Ouais, complètement, ça m'interpelle. Est-ce que du coup, tu as regardé la saison 4 en entier, après tu es revenu à la saison 1 où tu as poursuivi. Quand est-ce que tu as fait en fait le grand chef-d'œuvre et tu as dû rien comprendre sur toi.
Mais c'est ça en fait le problème, c'est peut-être ça, c'est peut-être le fait que j'ai rien compris mais que ça m'a intrigué vraiment grave quoi. Comme je disais là, je mettais vraiment un DVD sur l'ordi ou quelque chose pour m'endormir. Je collais ça sur l'ordi et puis je ronque devant parce que j'ai une facilité à m'endormir même au cinéma. Et là non, je j'ai pas pu. Vraiment, j'ai pas pu. Je suis resté bloqué. Et une fois que j'ai fini ce coffret DVD, c'était donc j'ai commencé sur le tard et ça a dû sortir en 2008-2009 ce coffret quand je l'ai récupéré au boulot. Et derrière, j'ai fait tout ce qu'on pouvait faire dans les années 2010, c'est-à-dire aller sur des plateformes de téléchargement. Et j'ai recommencé depuis le début pour réaccrocher. Quoi.
Et ça révèle donc une qualité de la série que c'est suffisamment prenant pour qu'on puisse la prendre en cours de route.
En tout cas, moi, ça a été le cas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens avec qui j'ai pu en parler qui ont décroché assez vite, peut-être parce que c'était trop complexe ou parce qu'ils n'y comprenaient rien ou côté mystère et tout ça, ça les gonflait peut-être un peu. Mais moi, ça m'a accroché bien. Ça.
Et toi qui es musicien, as-tu des souvenirs des chansons ou musique dans Lost ? Alors des chansons, il n'y en a pas tant que ça, mais de la musique et de l'empreinte sonore de Lost, tu t'en souviens un peu ?
Ouais, je m'en souviens un peu. Ouais. Je me rappelle que c'était quand même bien orchestré sur les scènes. C'est vrai qu'il n'y a pas tant de musique que ça, pas énormément de choses qu'on peut... Même le morceau qui est joué par le groupe de Charlie, qui est Breitschaft, quand on l'écoute à côté, on sent qu'ils n'ont pas, voilà, ils n'ont pas fait bosser un groupe pour créer un bête de morceau qui aurait pu sortir comme produit dérivé ou un truc comme ça. Et même les prestations de Charlie, quand on a dans les Flash Sideways, où il est à Londres, je crois, où je sais plus, où il joue Underworld dans la rue, même ça, c'est un peu médiocre, mais ça fait le boulot.
Lost, c'était donc il y a 20 ans, la première diffusion aux États-Unis. Est-ce, au-delà que toi, tu aies une affection pour cette série, est-ce que tu comprends qu'on en parle autant 20 ans après? Qu'est-ce qui fait qu'on en parle encore, selon toi?
Le dernier, bon, moi, ça m'arrive de regarder la série quand j'ai possibilité de la voir. Donc, il y a eu quelques années, c'était un compte sur Disney que ma gamine avait récupéré par sa marraine. Là, donc, comme je disais, il y a quelques semaines, je crois que c'est arrivé sur Netflix, donc je vais réussir aussi à la regarder. Et je pense que le fait de l'émission et d'en reparler, là, il y a très peu de temps, je vais vouloir me replonger dedans. Après, il y a une super chaîne sur YouTube. Station
7,
ouais, c'est ça, qui était vraiment sympa autour de ça. Et après, pourquoi on en parle encore, je sais pas, mais en tout cas, moi je la trouve terrible. Donc, moi je pense qu'elle a posé des bases déjà. Parce que s'il y a 20 piges, des séries que je me rappelle il y a plus de 20 ans, gamin, ça ressemblait pas à ça, donc, clairement pas.
Thomas ?
Ouais, alors la chaîne YouTube, c'est Station 7 d'Arma, donc c'est Didi Chandouidi, qui a écrit un petit avant-propos sur les mystères pour le livre, donc je le remercie au passage, sa chaîne est super chouette effectivement. Pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais, pour qu'on en parle 20 ans après, alors il y a le côté effectivement révolution des séries, etc., c'est un côté assez intemporel, ça vieillit pas quand tu regardes Lost. Après, il y a un truc qui revient très souvent, c'est que c'est une série qui t'aide, qui te fait du bien, où tu peux évoluer toi-même. En tout cas, c'est un truc que j'avais ressenti à l'époque dans ma phase post-adolescent, on va dire. Et ça, c'est quelque chose qui est revenu souvent chez les fans de Lost. Je me suis identifié à tel personnage, ça m'a aidé de le suivre, j'ai appris à mieux accepter mon passé, machin, à avancer, etc. Et y a peu de séries qui ont ce pouvoir-là, en fait.
Donc, si j'ai bien compris, Jérôme, t'es prêt à te refaire la série entière ?
De toute façon, je vais pas replonger dedans, c'est pour pas aller jusqu'au bout, ça c'est clair. Hein.
Ouais. Merci beaucoup Jérôme de ton intervention. Oui, si je sais que tu es musicien, c'est parce que le hasard a fait que tu t'es invité il y a pas si longtemps que ça dans Balance ta prog à l'occasion du MacMahon Fest qui se déroulait à Touques. Résultat, bah, quand tu as vu que j'avais lancé un appel aux fans de Lost, tu as répondu présent. Merci beaucoup et j'en profite pour te demander comment s'est passé le MacMahon Fest.
Eh ben, ça s'est bien passé. On a essuyé une petite tempête le midi, donc ça nous a mis un peu KO pour monter le reste de la déco et tout, pour qu'on soit vraiment prêt à l'ouverture du site. Mais le gros de la base était là pour que ça tourne. On a que des bons retours, que ce soit du public, des prestataires, des techniciens qui étaient avec nous. Ouais, c'était au top. Voilà, malgré le temps, ça a super bien marché. Et on est vraiment contents et on a eu des super groupes. Rusted au top, vraiment, ils ont clôturé la soirée. C'est un carton.
Tant mieux. Merci Jérôme, bonne soirée.
Merci à toi, bonne soirée à vous.
Et bon revisionnage de Lost. Vous aurez entendu quelques défauts techniques qui sont de mon fait, mais qui sont peut-être voulus aussi. Je voulais ajouter une petite part de mystère. D'où viennent ces craquements téléphoniques? Voilà, on est sur la série Lost, alors pourquoi pas ajouter des petites choses angoissantes comme ces petits craquements téléphoniques. Ton livre, il s'appelle comment, Thomas?
Tout savoir sur Lost.
Et on va vraiment tout savoir?
Ouais.
C'est la promesse. À quel moment est venue l'idée d'écrire un tel livre?
En fait, il y a 9 ans déjà que je l'ai commencé. Je ne l'ai pas écrit en fait, de façon continue. Comme je disais un petit peu tout à l'heure, je regardais les bonus des DVD, des Blu-ray. Et là, je m'aperçois qu'il y a plein de choses hyper intéressantes que j'imagine à ce compte-là que le grand public entre guillemets, ne connaît pas. Et je me suis dit, je vais écrire un article dessus. Et au bout de quelques jours, j'étais déjà je ne sais pas combien de pages de rédiger. Donc, au final, je me suis dit, ça va se transformer en livre. Et il y avait beaucoup de choses. Il y avait aussi bien la partie un petit peu making-of, comment ils tournaient certaines scènes, parce que tout a été tourné à Hawaï. Donc, quand ils faisaient des flashbacks qui étaient censés se dérouler en Australie ou dans différents pays,
c'était quand même à Hawaï, donc il fallait qu'ils trouvent des lieux, etc. Il y a une anecdote que je trouve assez folle, c'est que justement les flashbacks en Australie où les gens conduisent avec le volant à droite, ce genre de choses, et ben, au lieu de faire venir des voitures, etc., ils ont recréé des villes, ils ont écrit en fait à l'envers, en mode miroir, et après en post-production, ils ont tout inversé. Comme ça, ça donnait cette illusion. Et c'est plein de petites astuces comme ça, je trouvais plutôt intéressantes. Et puis après, il y a la partie, évidemment, sur les mystères. Et ça a commencé banalement en écoutant les commentaires audio des showrunners sur certains épisodes qui sont un petit peu particuliers. Et puis, avec le temps, bah, après, il y a eu des podcasts, il y a eu la chaîne, effectivement, de Didi, il y a eu plein d'articles, etc. On a accédé à tout ça assez facilement. Donc, c'était un gros travail. Et puis ça a débouché sur le livre. Donc, je fais une petite promo. Donc, c'est aux éditions Pix & Love et ça sort le vendredi 13 septembre, donc la semaine prochaine.
J'approche de la fin de la saison 3, de la toute fin de la saison 3. Est-ce qu'il y a possibilité de lire ton livre sans se spoiler trop, au moins certaines parties du livre. Est-ce qu'on peut picorer, aller chercher certaines parties ?
Il y a peut-être qu'un seul, tu vois, que là j'ai le sommaire sous les yeux du livre et en fait j'ai regardé quand tu m'as posé cette question et il n'y a qu'un seul truc, je pense, que tu pourrais lire sans vraiment te spoiler quoi que ce soit, c'est dans l'héritage de Lost, c'est les livres de fiction. Il y a eu quatre petits livres de fiction qui sont sortis, qui se déroulent dans la série mais qui ne sont pas considérés comme canoniques. Donc tu suis des autres naufragés en fait sur l'île, ça se déroule sur un ou deux jours, c'est des gens que tu n'as jamais croisés dans la série, mais qui eux croisent les naufragés que tu connaisses. C'est pas très intéressant, c'est pas de la grande littérature, à part un qui est assez particulier. Mais voilà, c'est peut-être le seul truc de mon livre que tu pourrais lire sans te gâcher le plaisir de...
Donc ne pas être impatient, d'abord la série, évidemment. Sûr, ouais. Est-ce que la série méritait une saison de plus ?
Non.
Non, bon là t'es catégorique. Mais s'il y avait le projet d'une série revival de Lost et que la décision ultime te revenait, tu voterais pour ou contre ?
Alors à chaud, je te dirais je voterais contre. Après, en fait, il y a des choses qui peuvent être malines à faire avec l'univers de la série. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de suivre les personnages de la série initiale. Tu peux suivre, par exemple, les enfants, ce que j'appelle les enfants de Lost. Il y a plusieurs enfants dans Lost, tu peux voir ce qu'ils sont devenus. Ça peut être intéressant. Tu peux voir ce qu'il y a eu sur l'île de Lost il y a des années, donc bien avant les naufragés qu'on connaisse. Tu as juste le lieu, en fait, qui est identique. Tu recroiseras, à part peut-être un ou deux personnages, aucun autre. Et sinon, il y avait, on en parlait justement avec Didi il y a pas très longtemps, un truc qui pourrait être intéressant, c'est une nouvelle série, mix de science-fiction, fantastique, tu sais pas trop ce que c'est. Et à la fin de la première saison, en fait, tu découvres que ça se déroule dans le même univers de Lost. Il y a peut-être un truc à faire avec ça. Mais d'une manière générale, j'ai envie de te dire, non, la boucle est bouclée, c'est très bien comme ça. Mais il faut jamais dire jamais. À chaque fois, ils reviennent sur les poules aux œufs d'or. Donc, on verra bien.
En allant droit au but, la fin de la série t'a-t-elle déçu ?
Non.
Au moins décontenancé ?
Non.
Non, clairement pas.
Non.
Ok. Tu sais que certains ont pu être déçus.
Bien sûr, mais c'est totalement compréhensible. C'est une fin qui est clivante, c'est une fin qui demande une certaine acceptation d'une quelque chose que certains ne partagent pas avec eux-mêmes, on va dire ça comme ça. Après, dans la dernière saison, il y a des choses qui m'ont déçu, mais ça, c'est autre chose. Mais la fin en elle-même, vraiment, la dernière ligne droite, les deux épisodes conclusifs, ils m'ont pas déçu.
Encore quelques questions sur Lost avec toi. Et puis un peu plus tard, on va dériver sur d'autres séries, d'autres films. Et puis des films aussi, quand même. On va parler films ce soir dans Triple Écran. As-tu joué aux jeux vidéo Lost ?
Oui.
Beaucoup ?
Je l'ai fait une fois. Je pense que tous les fans de Lost l'ont fait une fois.
Moi, je n'arrive plus à aller jusqu'au bout des jeux vidéo. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Avant, si j'avais un jeu vidéo, c'est pour aller jusqu'au bout. Et est-ce que je vais... Je me suis procuré le jeu vidéo Lost. Et donc, voilà, je vais voir si...
Il dure 5 ou 6 heures, je crois.
Oh, bon, alors, je vais les faire, alors. Voilà. Je vais les faire. Un mot sur la musique de Lost, même si on l'a déjà évoqué. Mais le compositeur, tu en parlais, tu l'as nommé. Tu as suivi sa carrière aussi.
Ouais, complètement. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, moi, il était un peu moins connu, entre guillemets, à ce moment-là, il était moins au cinéma. Alors, il avait fait des jeux vidéo, dont Medal of Honor. Et ce qui est fou, c'est que pour Lost, il avait un orchestre à sa disposition. Et ça, c'est très rare dans le monde des séries. Donc, il avait une cinquantaine de personnes qui pouvaient jouer pour lui ses compositions. Il avait que 48 heures pour les enregistrer. Quand tu fais des épisodes de séries, alors au format de l'époque, donc 20 à 24 épisodes qui courent sur plusieurs mois, t'as que 7 à 10 jours pour
écrire, tourner, faire la post-production, etc. Et lui ne lisait pas le scénario, en fait. Il regardait les scènes et à ce moment-là, tac, il avait l'inspiration et tout ça, et il a signé vraiment des compositions mémorables.
Avant de faire intervenir un animateur de 666, Phil de Guy Cordaille, pour nous parler de Lost, de son point de vue sur Lost, j'envoie le morceau Delicate de Damien Rice. Et pourquoi j'envoie ce morceau tout de suite sur 666, Thomas ?
Eh bien, parce que Hurley l'écoute sur la plage, sur son baladeur CD, quand ses piles tombent en rade. Et c'est une très belle séquence.
We are alone. Nobody's watching. We might take it home. We might make out. Nobody's there. It's not that we're scared. It's just that it's delicate. So why'd you feel my sorrows with the words you borrowed from the
C'était Damien Rice à l'instant avec donc Delicate qu'on entend dans la série Lost. Encore quelques petites questions pour toi, Thomas Swinnow, à propos de Lost, évidemment, ou pas. Eh bien non, j'ai prévu aussi des questions qui ne concernent pas vraiment Lost. Thomas, si Lost n'existait pas, quelle serait donc ta série préférée ?
Breaking Bad.
Breaking Bad.
Ouais. Pourquoi sans Breaking hésitation. Bad ? Pareil, l'écriture ultra pareil, le fond et la forme, la forme ultra soignée, l'écriture également très soignée.
Dès le pilote.
Ouais, ce souci du détail, et puis cette ascension, puis la chute, et puis le casting.
Et donc, si tu devais écrire un livre sur une autre série, est-ce que ça pourrait être sur Breaking Bad ?
Eh ben non, plutôt Westworld.
Et pas Breaking Bad, parce que...
Parce qu'en fait, dans Westworld, il y a une dimension un peu de mystère, de philosophie, etc., qu'on n'a pas forcément Breaking Bad, qui est très terre-à-terre, finalement. Et je pense qu'il y a plus de choses à dire sur des séries qui sont plutôt du registre du merveilleux, on va dire ça comme ça.
Phil de Guy Cordaille est avec nous pour faire un peu le bilan aussi de cette interview. Mais d'abord, ton point de vue, toi, sur Lost, quels sont les souvenirs que tu as de la série Lost ?
Alors d'abord, bonsoir Max, bonsoir Agathe et bonsoir Thomas. Les souvenirs que j'en ai, effectivement, moi, comme je suis un vieux, j'ai suivi dès la première saison, pas comme certains, au moment de sa diffusion sur TF1.
Effectivement, je suis un vieux aussi, hein.
Ouais, mais alors toi, t'es un petit jeune à côté de moi.
Moi,
le souvenir que j'en ai, ouais, c'est surtout que, effectivement, cette foultitude de personnages, Thomas disait qu'ils étaient un peu caricaturaux, c'est vrai. Néanmoins, il y avait des personnages très très forts. Il parlait tout à l'heure de John Locke, qui est joué par Terry O'Quinn, qui est un excellent comédien. Moi, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont émergé de cette série, d'autres qui ont complètement disparu, et ça, vous l'avez, comme c'est un peu le titre ailleurs de la série, mais il y en a qui ont vraiment disparu des écrans radars. Mais il y en a qui m'ont marqué. Alors effectivement, le Michael Emerson qui joue Benjamin Linus, c'est aussi un de mes personnages préférés. D'ailleurs, cet excellent acteur qu'on peut retrouver dans Person of Interest et dans Evil, qui est une série qui vient de se terminer là, récemment, c'est un super acteur qui joue les manipulateurs à souhait. Enfin, vraiment, c'est un excellent comédien. Tout à fait dans les rôles de personnages ambigus comme ça, vraiment excellent. Et puis je sais pas si vous en avez parlé, parce qu'il y a un moment j'ai un petit peu coupé pendant 5-10 minutes, mais moi le personnage que j'aimais beaucoup, c'était celui de Saïd, joué par Navid Andrews, qui était un des personnages les plus intéressants. Et puis il y avait celui aussi joué par Jorge Garcia Ugarteche, celui qui gagnait la loterie et puis qui était poursuivi par cette fameuse file de chiffres dont on se demandait pendant longtemps à quoi il correspondait.
D'autant que sur 666, on aime bien insister sur les chiffres.
Tout à fait. Voilà. Donc effectivement, ouais, c'est effectivement cette écriture, cette narration particulière avec les flashbacks. Alors, et ce que je ne peux pas te dire pour ne pas te spoiler, comme disait Thomas. Mais moi, j'aimais bien. En fait, ce que j'aimais bien, je crois que ce que je retiens de ces 6 saisons, c'était justement ces flashbacks. À la limite, je me sentais plus intéressé quelquefois quand le présent devenait un petit peu banal, un petit peu chiant, parce que c'est vrai qu'il y a eu des moments vraiment creux. Saison 3, saison 4, il y a des moments où, ouais, on s'en kikinait un peu, et les flashbacks ravivaient un peu la flamme, et du coup ça donnait quelque chose de qui m'intéressait plus. Allez, je m'intéressais vraiment plus aux flashbacks et qu'à ce qui se passait sur l'île. Mais il faut dire que l'île, en fait, c'est, pour moi, ça reste le personnage principal. C'est plus que les. Alors moi, je suis pas du tout. Alors je suis complètement hermétique à Matthew Fox et Evangeline Lilly. Hein, le couple Jack Kate, je m'en foutais complètement. James Ward, celui qui joue Sawyer, effectivement, comme le disait Thomas, c'était un peu le beau gosse, machin, grand baraqué, côté. Mais il plaisait plus à ma femme qu'à moi. Le couple de Coréens aussi, Sud-Coréens, comme Jin et Sun, que je trouvais assez intéressant, et là aussi c'est l'évolution des personnages qui était vraiment intéressante, à la fois sur l'île quand on voyait leur passé, on comprenait beaucoup mieux pourquoi cette évolution graduelle sur l'île. C'est un souvenir assez je suis assez mitigé. Moi, alors, contrairement à Thomas, forcément, je fais partie des déçus de la fin. J'ai eu de mal à encaisser le dénouement, on va dire.
C'est retenu.
J'ai fait partie des nombreux déçus. Je conçois tout à fait qu'il fallait en terminer. Et je pense personnellement que sur les six saisons, il y en a bien une, voire deux de trop. Je pense qu'il y a eu des choses qui auraient pu être conclues plus rapidement, mais bon, après ça c'est juste mon impression et mon ressenti.
Et puis c'est parfait ce que tu me dis là, parce que ça me donne l'occasion de poser une question à Thomas pour défendre une ultime fois sa série. Je renvoie donc cette question à Thomas. Est-ce que, et ce sera la dernière question que je te pose à propos de Lost, est-ce qu'il y a donc eu une saison ou deux de trop, même si tu as déjà peut-être un peu répondu tout à l'heure?
Il y a eu des épisodes de trop. De toute façon, Lindelof, à la base, il avait un plan pour 3 saisons, puis après vraiment pour 5, parce qu'il pensait qu'au bout de 3 saisons, il serait viré, qu'il changerait. Donc lui, il avait prévu un truc en 3. Quand il a su qu'il resterait, on va partir sur 5. Et puis finalement, ils ont négocié 6. Il y avait eu la grève aussi des scénaristes à l'époque, etc. Et 6, pour le coup, c'est très bien. Après... revenir sur la fin très rapidement et sans spoiler, il y a aussi ce côté on veut la réponse à tous les mystères à la fin. Et en fait, et je t'invite à lire mon livre, Phil, c'est que les mystères, t'avais quasiment toutes les réponses au fil de la série, en étant attentif, etc. Mmh. Mais c'est une série qui est très exigeante, et c'est vrai que c'est pas forcément simple quand on n'a pas le temps aussi.
Elle est peut-être faite pour le revisionnage, justement. Elle a peut-être été pensée avec l'idée que, de toute façon, il y avait les éditions DVD juste derrière, et maintenant le temps.
Ce sera certainement le cas.
Merci beaucoup Phil, je t'invite à rester en ligne pour continuer à parler cette fois-ci cinéma, mais donc je rappelle une dernière fois, Lost, tout savoir sur Lost, c'est donc signé par toi Thomas Swino, et c'est quel éditeur?
C'est Pix & Love, et il y a un site internet qui accompagne la sortie du livre, wehavetogoback.fr.
Ça arrive très vite, et puis ça arrive tout pile dans les 20 ans de la série, qui amène d'autres ouvrages, en tout cas un autre ouvrage. J'en ai pris la connaissance seulement ce matin. Il s'appelle Lost, la foi en la narration sur l'île de Lost. Tu as peut-être eu écho de ce livre aussi, Thomas?
Oui, bien sûr, j'échange avec son auteur, Flavien Stinnerman, je crois.
Oui.
A priori, les angles sont très différents. Enfin, moi, je suis beaucoup sur du factuel, de l'information, là où lui sera plus sur de l'analyse. Donc les livres sont plutôt complémentaires.
Le sien, c'est chez Third Edition. Donc ça prouve bien aussi, s'il y a plusieurs ouvrages sur Lost, qu'on sent qu'il y a encore des fans. La communauté de fans en France de Lost, quelle est-elle? Tu as eu l'occasion de la rencontrer puisque tu en fais partie.
Alors c'est assez difficile à quantifier, mais en tout cas on voit à chaque fois qu'il y a des articles sur Lost sur les réseaux sociaux, sur des choses des fois un peu troll, justement pour appâter. Il y a toujours les fervents défenseurs de la série et de la fin, et il y a toujours ceux qui disent mais non, on perd 6 années de notre vie à regarder ça. La communauté est très active, et il y a encore plein de choses qui se font aussi outre-Atlantique. Il y a un documentaire Getting Lost qui arrive là pour les 20 ans. Ils ont pu interviewer quasiment tout le monde sauf celui qui jouait Saïd, donc Navin Andrews et Matthew Fox, qui a refusé. Un peu bizarre, mais bon.
Lost, tout savoir sur Lost, c'est avec ton livre Thomas Swino, tout savoir sur Lost, ça arrive très vite. Hein.
Ouais, le vendredi 13 septembre, la semaine prochaine.
C'est chez Pix & Love Édition.
C'est ça.
Et maintenant, je te garde encore quelques minutes sur 666 pour parler cinéma avec Phil de Geek or Die, avec également Agathe. Si je vous dis Tim Burton, est-ce que clairement c'est une filmographie qui vous parle, Thomas?
Oui, bien sûr. Enfin, surtout ses débuts.
Et puis tu es un fan de Batman.
Exactement.
Tu as d'ailleurs un blog, je crois, sur Batman.
Ouais, un site qui s'appelle comicsbatman.fr.
Est-ce que les films Batman de Tim Burton sont tes préférés?
Le deuxième fait partie de mes préférés, ouais. Returns, le défi.
Le Returns. Ok. Et Phil de Geek or Die, pour la filmographie de Tim Burton, tu penses à quel film?
Ah ben je suis un peu comme Thomas, je suis plus sur la première partie de sa carrière, les années on va dire 80-90, moi c'est Edouard Romain d'Argent en priorité. Voilà, c'est le film pour moi qui m'a le plus marqué, et Beetlejuice juste derrière, parce que je pense qu'on va un peu en parler, on va parler de la suite.
Évidemment,
je pense.
On va parler de Beetlejuice. Et alors en dehors, c'est pas nécessairement à Deauville, mais Thomas, quel film t'aimerais bien revoir, que t'as pas eu l'occasion peut-être de voir en salle et que t'aimerais revoir en salle, ou que tu as déjà vu en salle mais tu veux le revoir en salle?
Y a un film de Jacob van Dormael, Mr. Nobody, qui est pas très très connu, avec Jared Leto, qui m'avait foutu une claque monumentale au cinéma, et qui est ressorti après dans une version longue Director Scott. Celle-là, j'aimerais beaucoup la découvrir au cinéma. Après, dans mes listes de films préférés, j'ai toujours réussi à retrouver des séances un peu spéciales, des projections pour découvrir Donnie Darko, par exemple, au cinéma.
Mon film préféré, donc.
Voilà.
Richard Kelly.
Matrix aussi, que j'ai pu revoir au cinéma.
Et Wachowski.
Voilà. Les Enfants du Paradis, le Carnet de 1945. Pareil, j'ai découvert dans une séance au cinéma de 3 heures. C'était formidable. Bon, après, je peux en citer plein d'autres, mais voilà, c'est vraiment des films que j'aime beaucoup.
Et quel est le prochain film que tu comptes aller voir au cinéma?
Probablement Speak No Evil, avec James McAvoy. Film thriller, horreur un petit peu. Ça a l'air assez intriguant. J'ai pas trop regardé, parce que j'ai pas trop regardé les bandes annonces maintenant, mais ça a l'air chouette. Et puis, bah, y aura après Gladiator 2 et Megalopolis de Coppola. C'est mes trois prochains.
Autre proposition pour les fans de Batman, la chance continue. Après
ça tombe bien, il y en a un juste en face de toi, aussi. C'est Thomas.
Après l'animé réussi diffusé sur Amazon au mois d'août, voilà que débarque sur HBO la série sur le pingouin. Proposition autonome avec Colin Farrell, méconnaissable. DC et Warner nous offrent sur un plateau un univers de mafieux captivant. Il s'agit d'un spin-off du film The Batman, sorti en 2022. Je ne m'avancerai pas trop, mais je conseille quand même de visionner le film avant de se lancer. Et puisqu'on parle de Lost ce soir, je vous ai fait un petit panel des séries également inspirées du livre Sa Majesté les Mouches. Pour les plus récentes, je citerai Yellow Jacket et From, mais vous pouvez aussi vous replonger dans The Leftover ou encore Under the Dome. Sinon, côté actu, je vous laisse ouvrir vos agendas. En Normandie, on a toujours de la chance avec la rentrée et ça débute le 6 avec la 50e édition du Festival américain de Deauville. Si vous aimez plutôt les courts-métrages et les kinos, il vous suffira de traverser le pont. Le festival Off-Court ouvrira ses portes à Trouville à partir du 7. Et pour finir en beauté, c'est la fête du cinéma normand pendant 3 jours à partir du 27 et les places seront à 5 euros.
Merci beaucoup pour cette brillante chronique qui résume vraiment bien ce qu'on peut attendre ce mois-ci au cinéma et côté festival. Effectivement, on est quand même plutôt gâtés en Normandie. Ça pourrait donner envie à Thomas de rester un peu plus longtemps en Normandie. Tu connaissais déjà un peu la région ?
Avec
Est-ce que
grand
t'es
plaisir.
Déjà venu ?
Ah oui, oui. J'étais venu pour le festival Beauregard, où je viens de temps en temps.
Tu étais venu pour un groupe en particulier ?
Alors l'an dernier, j'étais venu pour Indochine, qui est un groupe que je suis beaucoup. Puis après, ça dépend de la prog.
Indochine qui sort très bientôt, dans quelques jours, son nouvel album, ouais. Babel.
C'est ça.
T'as écouté évidemment Le Chant des Cygnes.
Bien sûr.
Et tu seras parmi les premiers à écouter l'album.
Exactement.
On sera parmi les premiers. Mais on sera nombreux, je crois, surtout aussi. Oui. Thomas, avant justement d'embrayer un peu plus sur la musique, puisque Agathe évoquait cette série centrée sur le pingouin, est-ce que t'es partant pour regarder cette série ou pour toi, Batman, c'est Batman ?
Ah oui, complètement. Surtout que, comme c'est lié au film de Matt Reeves, The Batman, et puis qu'il y aura une suite dans un ou deux ans, je ne sais plus. Ça va faire un peu le pont entre les deux.
Il va y avoir une suite au Batman de Matt Reeves ?
2020.
Ah oui, oui.
Avec toujours Robert Pattinson ?
Tout à fait.
J'étais même pas au courant.
Ah bah voilà.
J'ai pas eu le coup de fil. mais alors ça me fait plaisir. Ouais. Vraiment. Parce qu'on est d'accord qu'il y a eu un petit temps où on ne savait pas trop vers quoi on allait. Enfin, moi, j'avais l'impression qu'on n'était pas sûr d'avoir...
Ils l'ont officialisé, je crois, l'an dernier. Par contre, la série sur le pingouin, elle a été mise en sentier assez rapidement.
Oui, oui. Mais c'était l'idée d'une suite de The Batman avec Robert Pattinson. Ok, très bonne nouvelle.
Officialisé assez rapidement, mais par contre, le tournage a été reculé et sorti 2026 au lieu de 2025. Donc, okay. Déception.
Ouais. Mais enfin, moi qui n'étais pas au courant, je l'apprends en direct, je vais repartir très content. Très content d'avoir fait un peu plus connaissance avec toi, Thomas, et notamment de mieux connaître ta passion pour Lost. Et une petite question supplémentaire sur la musique. Quels sont les derniers concerts et albums que tu as fortement appréciés, Thomas ?
Alors, en album, il y a First Light de John Z. John Z, c'est le chanteur de Sigur Rós, et donc il a une petite carrière solo à côté. C'est sorti vendredi dernier. C'est sublime, c'est de l'ambiance, c'est aéré, envoûtant. Enfin, c'est vraiment un style que j'adore. J'attends de pied ferme le prochain Nada Surf, Moon Mirror, qui sort le vendredi 13, donc le jour de la sortie de mon livre. Ils ont déjà dévoilé quelques singles, c'est plutôt chouette. En concert, j'ai vu Lana Del Rey rock en scène il y a deux semaines et c'était super. C'est dommage qu'elle passe pas assez souvent en France. Et puis j'ai fait une petite liste d'artistes ou de groupes qui sont pas entre guillemets très connus et que j'aime bien partager. Il y a Ghostly Kisses, pareil, c'est de la pop un petit peu aérienne. Axel Flovent, Steel Corners, on est plus un peu là sur du pop rock. Boy Genius, c'est un super groupe composé de trois femmes, Julianne Baker, Phoebe Bridge et Lucie Dacus, je crois. Et puis, il y a aussi la chanteuse de The Church, qui est assez connue, Lauren Mayberry, qui sort des choses en solo, qui a fait un concert aussi il y a quelques mois, qui était très très bien à Paris.
À tout hasard, puisque j'aime bien à chaque fois évoquer aussi le format clip musical, est-ce qu'il y a un clip qui t'a marqué ?
Ouais, il y en a deux. Enfin, c'est les deux de Placebo.
Je suis fan de Placebo.
Qui sont assez dingues. Il y a 36 Degrees et il y a Special Needs. Voilà, et Special Needs qui j'ai l'impression fait un peu cette boucle de leur fameuse couleur bleue qui était sur leur album. Le premier est sous l'eau, le deuxième est dans une piscine vide, etc.
Et plus calme.
Ouais.
Plus calme. Le Special Needs.
C'est ça.
Et un très beau morceau. Ok, bah, c'est vrai que j'ai dans ma DVD Tech un beau DVD de clip Placebo. Ouais. Plutôt bien soigné,
tout à fait.
Clip de Placebo. Merci encore Thomas. Et puisque tu as évoqué Nada Surf et que c'est un de mes bons souvenirs à Hérouville-Saint-Clair, c'était au Big Band Café qu'ils étaient passés il n'y a pas si longtemps que ça. Je propose d'écouter un extrait annonciateur de leur album Moon Mirror qui sortira le 13 septembre. Ça s'appelle In Front of Me Now et c'est la transition pour démarrer l'émission musicale Balance ta prog. Bonne soirée à Thomas, bonne soirée à Agathe.
Bonne soirée, merci pour l'invitation.
Avec plaisir.